Bonsoir Frédéric Boyer.
Bonsoir.
Merci d'être venu. Présenter vos deux derniers livres parus aux éditions POL. On va surtout parler ce soir du Kama Sutra. Il y a également un autre petit essai qui paraît « Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?» Donc aux éditions POL toujours. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, Frédéric Boyer, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions POL, que ce soit de la poésie, des essais, des ouvrages dans lesquels parfois vous mélangez les genres aussi. Et vous êtes par ailleurs traducteur, vous aimez traduire des textes de l'Antiquité. Ça a été le cas notamment pour les Confessions de Saint-Augustin que vous avez intitulé « Mes aveux », toujours chez POL, et un gros chantier, celui de la Bible, aux éditions Bayard, qui est devenu maintenant une des traductions de référence que personnellement j'aime conseiller. Ce soir, vous venez donc nous présenter le Kama Sutra, donc ce texte d'une notoriété incroyable, mais pourtant relativement méconnue. C'est vrai que, alors je crois que la première exposition a eu lieu il n'y a pas si longtemps, c'était à la Pinacothèque de Paris.
Cette année.
Oui, c'est ça.
C'était hier, oui.
Voilà, exactement, qui a terminé en janvier 2015. Et c'est vrai qu'on a beaucoup glosé, dans tous les sens du terme, autour de ce texte. On en retient surtout 64 positions sexuelles, alors que c'est plus 64 techniques. C'est un livre qui est assez étrange, qui, comme vous le dites, mélange plusieurs genres, syllogismes, recettes, formules. Je me trompe de livre, évidemment. Vous tentez, donc, dans votre introduction, d'en donner une définition. Je vais juste lire un passage pour montrer justement la difficulté que l'on a à définir un tel texte. Le Kama Sutra est un texte de littérature d'une rare préciosité, traité taxinomique sur la vie amoureuse, dialogue philosophique et politique, manuel de savoir-vivre, rituel et bréviaire érotique, poème aux longues énumérations sous forme de listes aux détails aujourd'hui parfois bizarre et bouleversant. Alors, moi, à travers cette petite rencontre ce soir, j'aurais envie déjà de comprendre ce que c'est exactement que ce texte, de savoir aussi ce qui vous a donné envie de vous y intéresser. Le choix n'est certainement pas anodin. Et puis, éventuellement, que vous nous parliez de la complexité ou des éventuelles difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer pour traduire un tel texte. Sachant que vous avez commencé votre travail il y a 4 ans, alors que vous ne connaissiez pas le sanskrit. Alors, comment déjà, lorsqu'on vous demande de définir ce texte, qu'est-ce que vous répondez à une telle question?
D'abord, c'est un texte de l'Antiquité. Et, bon, moi, je m'intéresse, même dans mon travail d'écrivain, d'écriture, à cette relation à l'Antiquité et à cette relation avec la littérature de l'Antiquité. Et je fais juste un petit excursus comme ça sur. Parce que je ne me considère pas vraiment comme traducteur au sens entier du terme, mais je mets dans mon travail d'écriture ce travail de rencontre et de retour sur des textes anciens et des langues anciennes. Pourquoi ? Parce que je suis passionné par ces moments dans l'histoire des civilisations où effectivement de nouvelles langues, de nouvelles cultures sont entrées en contact avec d'autres langues plus anciennes ou qui les ont précédées et d'autres cultures, et on fait ce travail effectivement à la fois de transcrire, de traduire cette culture ou cette langue dans leur propre langue et dans leur propre culture, et en même temps ce travail-là est un véritable travail d'innovation à la fois sur les langues anciennes et sur les textes anciens que l'on recueille effectivement, mais surtout sur sa propre langue et sur sa propre littérature. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans la Renaissance européenne, qui a été un temps en Europe inouï de traduction, où effectivement les langues que l'on appelle vernaculaires, c'est-à-dire les jeunes langues européennes, pardon, le français, l'anglais, l'allemand à l'époque qui était en train de se constituer, se sont constituées et ont éprouvé leur plasticité en traduisant les textes anciens et en traduisant les langues anciennes, en l'occurrence c'était le grec, le latin, l'hébreu, c'est-à-dire les langues dites savantes à l'époque, dans ces langues populaires ou ces langues qu'on appelait à l'époque vulgaires. Et pour montrer que ces langues vulgaires avaient un avenir à la fois poétique, civilisationnel, eh bien, on s'attaquait aux textes anciens et aux textes de référence. Et en s'attaquant à ces textes de référence, on créait une nouvelle littérature. Voilà. Quand vous lisez Défense et illustration de la langue française de Dubellé, que vous trouverez dans cette excellente librairie, j'en suis sûr, et vous verrez que Dubellé explique cela, voilà. Comment le français va pouvoir devenir une langue aussi forte et aussi inventive, aussi innovante que le grec ou le latin, eh bien, en s'attaquant à ce travail-là. C'est la même chose, d'ailleurs, avec le latin par rapport à la culture hellénistique. On va pas parler de ça, on va parler du Kama Sutra. En tout cas, la civilisation latine s'est construite sur cette captation presque, ce rapt presque de l'héritage hellénistique par la culture latine. Voilà. Donc, à mon tout petit niveau, modeste niveau, j'essaye de faire ça. J'essaye de m'emparer de textes anciens, de langues anciennes, pour les éprouver dans mon propre rapport à ma langue, à ma culture, à cette langue française qui change aussi, à cette littérature qui est une littérature en permanent travail, etc. Voilà. Donc le Kama Sutra, alors, je m'y suis intéressé un peu par hasard, quand même. Il y a quelques années, j'écrivais un petit texte qui s'appelait Technique de l'amour, un petit texte sur le langage amoureux, sur le discours amoureux. Et dans mes lectures préparatoires à ce travail, j'ai lu le Kama Sutra dans les traductions qui existent, qui existaient. Voilà. Et j'ai eu un choc poétique, littéraire. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut aller voir. Mais ça, c'est un vice après. Il faut aller voir vraiment ce que c'est que ce texte. Voilà. Donc, j'avais que de vagues notions de sanskrit. Donc, je me suis mis au sanskrit, effectivement, avec des gens qui le connaissaient. Et j'ai commencé à transcrire un peu des passages qui m'intéressaient. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai traduit tout le texte. Pourquoi ? Parce qu'il m'est apparu, effectivement. D'abord, c'est un texte qui est bouleversant à plus d'un titre. D'une part, parce qu'il parle de quelque chose qui est bouleversant, c'est-à-dire la place du plaisir et des plaisirs. Bien sûr, du plaisir sexuel, mais aussi de tous les plaisirs, de toute la sensualité dans une existence. C'est-à-dire, comment on peut tenir une existence sans faire une place ordonnée au plaisir, au pluriel, dans l'existence. Voilà, c'est la question du Kama Sutra. C'est une question fondamentale qu'on trouve aussi chez Platon, qu'on trouve aussi chez Ovid, mais aussi, d'une certaine façon, dans la Bible, dans l'Ecclésiaste. Voilà. Alors, chacun le règle à sa façon. Là, on est dans une culture particulière, c'est l'Inde ancienne, la culture brahmanique. Le texte est écrit, autant qu'on puisse le savoir, c'est un texte de l'Antiquité, donc est écrit probablement entre le 2e et le 4e siècle. Comment on le sait ? Parce que toutes les références historiques, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes de ce texte, sont antérieures au 4e siècle, et parce que la seule mention que l'on ait de ce texte, le Kama Sutra, et de son auteur putatif, parce que dans l'Antiquité, la notion d'auteur n'est pas la nôtre, hein. Un auteur qui se fait appeler Vatsyayana, eh bien, ce Vatsyayana et son Kama Sutra apparaissent au 6e siècle dans un long poème d'un grand poète de l'Inde ancienne en sanskrit, Subandhu, qui évoque, c'est le seul à évoquer ce texte. Voilà. Deuxième chose, donc il y a un mystère quand même autour de ce texte, autour de cet auteur. Et deuxième chose, c'est que ce texte lui-même se présente comme une opération presque de sauvetage et dans une grande nostalgie. Donc c'est très curieux. Si vous allez le lire sûrement, je vous y encourage, vous verrez que le texte commence comme ça. Il dit, voilà, moi, Vatsyayana, j'ai décidé de recueillir tout l'enseignement sur le plaisir des maîtres anciens parce que cet enseignement est en train de se perdre. Cet enseignement a été soit noyé sous des notes et sous des écrits qui ne correspondent plus à l'enseignement traditionnel, soit il a été découpé, soit on l'a perdu, etc. Donc moi, j'ai fait ce travail inouï de tout rassembler et de tout résumer et de tout réordonner dans un petit livre très précis. L'expression même petit livre est dans le Alpa Silpa et dans le texte. Voilà. Donc c'est un texte bouleversant pour ça. Voilà. Donc, il se présente, contrairement à ce qu'on croit, comme le texte qui va restituer un enseignement qui est en train de se perdre. Et même, il y a une certaine menace. Hein, qui donc encore aujourd'hui connaît véritablement cet enseignement sur le plaisir? Et il dit, si tu ne connais pas cet enseignement sur le plaisir, comment peux-tu connaître après l'enseignement fondamental, celui du dharma, ou celui de artha, c'est-à-dire à la fois dharma, donc les principes à la fois religieux, sociaux, moraux, philosophiques, qui guident une existence à la fois collective et individuelle, et en même temps artha, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'une existence s'enrichit. Donc il dit, il faut, à côté de dharma, artha, il faut qu'il y ait kama, sinon l'existence ne tient pas. Voilà. Et il y a derrière ça une sorte de dénonciation, d'un oubli de ce savoir sur le plaisir. Alors après, il y a plein d'hypothèses, j'en parle un peu dans l'introduction. Probablement que la montée en puissance du bouddhisme en Inde, à cette époque, effectivement, à partir du IIe siècle, le bouddhisme est très important, et le savoir brahmanique, lui, est un peu en recul, et en tout cas, notamment ce savoir sur une existence de plaisir. Donc c'est un petit texte qui parle aussi d'une nostalgie, de la nostalgie d'un monde qui serait perdu ou qui serait en passe d'être perdu. Et on peut même se demander, quand on lit tout ça, est-ce que ce monde a jamais existé? Est-ce que ce savoir a jamais existé? Voilà. Puisque tous les textes que cite ce brave Vatsyayana au 3e, 4e siècle, on n'en a pas trace, évidemment. Les auteurs qu'il cite sont des auteurs légendaires, soit des dieux, soit des sris, comme on dit en sanskrit, c'est-à-dire des grands savants, des sages, mais qui sont aussi des êtres mythologiques qui auraient écrit 1000 versets sur le plaisir, mais on n'en a aucune trace. Voilà. Les seules traces que l'on ait après de textes sur le plaisir, sur le kama, sont postérieures au Kama Sutra. Donc il y a aussi peut-être une sorte de supercherie littéraire, un peu à la Borges, si vous voulez, où on ne sait pas finalement si... Mais c'est aussi propre à l'Antiquité. Tous les grands textes de l'Antiquité se présentent comme des sortes de bibliothèques condensées. On dit, on a tout relu, on a tout revu, et on va vous écrire, nous, la nouvelle formule condensée de ce texte. Et moi, je peux continuer tout.
Oui, je vois ça. Mais du coup, j'aimerais bien rebondir sur deux, trois choses que vous venez de dire. Il y en a pas mal. Notamment, je vais rebondir sur, effectivement, le sens de Kama. Parce que Kama Sutra, donc traité du désir ou aphorisme du désir. Et comme vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une visée métaphysique dans ce texte. Ce n'est pas simplement un traité sur le plaisir. C'est-à-dire que le Kama fait vraiment partie des trois existences, trois buts de l'existence dans la société brahmanique. Donc le premier étant le principe, le deuxième, l'aisance matérielle, la richesse, et le Kama étant donc la troisième étape de cette vie réussie, donc qui est le désir, et qui est donc la dernière étape avant la libération. Voilà. Ce qu'on pourrait nous traduire, je pense, maladroitement par salut, parce que ça n'a pas tout à fait le même sens, mais...
C'est moksha en sanskrit, c'est-à-dire voilà. C'est la délivrance. Alors effectivement, ça peut...
Et c'est quand même aussi intéressant de savoir qu'il y a toute une visée qui s'inscrit profondément dans les croyances et dans une certaine métaphysique hindoue.
Alors c'est vrai.
C'est pas que l'art de bien vivre pour citadin.
C'est une très bonne question.
Alors j'aimerais juste un petit peu revenir là-dessus. Ah,
c'est une très bonne question parce que c'est vrai, vous avez raison. Et d'ailleurs le Kama Sutra, quand il commence, présente bien ça. D'ailleurs le premier chapitre après le sommaire, le premier chapitre, c'est de bien réexpliquer qu'il y a ces trois stades de la connaissance sans lesquels une vie de Brahman réussie est impossible. Voilà. Effectivement, elle est dans l'ordre. Le premier, c'est les principes, ce que j'appelle dharma. Bon, moi, je traduis par principe. Ça vient d'une racine d'or qui veut dire être stable. Hein. C'est une vieille racine indo-européenne. On traduit par devoir, mais c'est un peu, je trouve, étroit. Ou on traduit par religion, ce qui me paraît alors là complètement très loin. Non, mais très loin.
Parce qu'il y a d'autres mots pour ça.
Voilà, et en plus, il y a d'autres mots. Donc, ce sont les principes dans toutes leurs... Les principes, ça peut être religieux, rituel, mais aussi des principes sociaux, d'organisation de la société, des principes éthiques aussi, voilà. Et des principes même physiques, hein, et des principes même logiques. C'est-à-dire c'est cet ensemble-là qui fait... Et ça, c'est le premier stade de la connaissance qu'il faut absolument avoir et connaître et transmettre. Mais ça ne serait pas possible si en même temps, on n'avait pas pour but, si l'existence humaine n'avait pas pour signification, la réussite matérielle. Réussite matérielle, c'est bien sûr avoir de l'argent, avoir une grande maison, avoir beaucoup de biens, mais aussi avoir une grande famille, beaucoup d'amis et un réseau social de connaissances. Hein, c'est aussi ça. Hein.
Par contre, question, cela s'adresse qu'aux brahmanes.
Alors, oui,
ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Vatsyayana était donc apparemment un citadin cultivé, érudit, qui s'adresse qu'à des citadins cultivés et érudits. C'est pas un texte qui a circulé beaucoup.
Non, tout à fait. Dans les textes ne circulaient pas beaucoup. Ils circulaient surtout en sanskrit. Le sanskrit est la langue de l'être. Et donc, c'est la langue du brahman. Et donc, ça a circulé que dans cette toute petite caste, qui est une infime minorité, mais qui tenait cette société de l'Inde ancienne. À cette époque, effectivement, à partir du IIe siècle, en Inde ancienne, on a la constitution de très grands centres urbains extrêmement raffinés. On est dans une période d'éclosion culturelle. Et c'est dans cette période-là, effectivement, que le Kama Sutra a probablement été rédigé et a été diffusé. Donc, s'adressant, et le livre lui-même s'adresse directement à ces destinataires-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sanskrit les Nagaraka, c'est-à-dire les citadins raffinés, ceux qui, effectivement, les brahmanes qui vivent dans des centres urbains raffinés et qui ont une existence comme ça consacrée à la fois à l'aisance matérielle, à la culture, à l'art. On verra que parmi toutes les techniques d'amour recommandées dans le Kama Sutra, il y a de savoir discuter de poésie, de littérature et de peinture avec l'autre. Voilà.
D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle peut-être un peu plus du contenu. Et peut-être vous pouvez aussi d'ailleurs en lire un passage, parce que c'est quand même intéressant exactement de savoir de quoi il retourne. C'est donc un petit livre, effectivement, qui se compose de 7 parties. Ce qui nous est commun, faire l'amour, à la conquête des jeunes filles, les femmes, à la conquête des femmes des autres, des prostituées et techniques secrètes. Voilà. Et dans chacune de ces parties, Vatsyayana prodigue des conseils, énumère des listes, c'est très précis. Est-ce que éventuellement vous accepteriez de nous lire un extrait, un passage, juste pour qu'on ait quand même un petit peu le
verbe? Je vais vous lire le verbe. Dans le début. Le chapitre où, après avoir expliqué qu'il fallait bien respecter les différents stades de l'existence et respecter les principes, etc., il commence à expliquer comment il faut s'installer, comment un jeune brahman doit s'installer, et ce qu'il doit faire, ce qu'il doit avoir. Je fais juste une petite incise parce que ça peut vous paraître extrêmement... Mais parce que c'est une autre énigme de ce texte. C'est que ce texte a une grande dimension parodique aussi. Voilà. Ça, c'est que j'apporte moi un peu. Oui. Et je pense que je suis assez sûr de moi. Enfin, j'en ai discuté de toute façon avec d'autres. D'abord, effectivement, dans la tradition de l'Inde ancienne, il y a une grande, on va dire, une sorte de sacralisation de l'érotique, notamment dans toutes les, si vous lisez les grandes épopées hindoues, des divinités hindoues. Le dieu Kama, d'ailleurs, est un des dieux les plus mystérieux, les plus influents. Et voilà. Mais cette sacralisation de l'érotique, on ne la trouve pas telle qu'elle dans le Kama Sutra. Donc c'est très étrange. Il n'est jamais question de ça, vraiment. Voilà. Ensuite, effectivement, il dit bien, il respecte les trois temps de l'existence, essaye de prendre ton temps, etc. Puis en même temps, tout d'un coup, là, il dit, bon, mais finalement, je citais juste cette phrase, c'est assez... Il dit, il faut étudier le Kama Sutra et ses connaissances, mais sans prendre le temps consacré aux autres, aux principes, aux richesses, etc., etc. Il dit, il y a différentes... Je ne sais pas... Bon, je ne retrouve plus, mais... Et donc, c'est au début, il énumère les différents stades de l'existence. Voilà, c'est là. Voilà, il dit donc, 100 ans, c'est la longue vie d'un homme consacré à s'éveiller à chacune des trois significations de l'existence, équitablement, sans privilégier l'une sur l'autre. Dans la première vigueur, acquérir l'illumination et d'autres puissances. Dans la jeunesse, les plaisirs de l'amour. Dans la vieillesse, les principes et la délivrance. Mais la vie ne dure pas, profitez alors de toutes les occasions. Mais tout de suite, alors ça c'est très hindou aussi, c'est un jeu, c'est-à-dire il faut étudier toutes les possibilités. Et toutes les possibilités ont droit de citation et elles ne s'annulent pas. Ça n'est pas du tout dialectique. Et l'auteur, à mon avis, en fait un usage un peu immodéré, puisque là, il brise un peu, je pense, un certain enseignement. Voilà. Où il y a des choses assez comiques dans le moment où il explique ce que c'est qu'un harem, et il dit, évidemment, tous les jeunes gens aimeraient entrer dans un harem, évidemment. Alors, il dit comment faire. Alors, il énumère toutes les possibilités pour entrer dans un harem. Et il dit notamment, il y a quelque chose d'infaillible, il y a une formule magique. Alors, il cite la formule magique. Et il dit ça marche ou pas. Tout de suite après, il dit, mais si ça marche pas, creuse un tunnel. Bon, c'est que des...
C'est ça. Exactement. Ah. Ou même lorsqu'il cite les maîtres, c'est souvent pour les contredire.
C'est pour les contredire, effectivement.
Les maîtres disent que Vatsyayana, par contre, pense qu'ils ont tort. Et oui.
Voilà, donc il y a aussi une part, et on verra, puisqu'effectivement, c'est une somme, ça se veut de condenser d'un enseignement traditionnel, et en même temps, cet enseignement traditionnel, il le détourne à chaque fois. Hein, donc c'est... Alors, je vous lis juste cette entrée en demeure. Voilà. Donc, étude faite, s'installer soit avec son héritage, soit grâce à des dons, ou avec ce qu'on aura gagné, salaire, revenu, et marié, vivre la vie raffinée d'un citadin. Choisir une grande ville, une capitale cosmopolite, un endroit peuplé. Sinon, choisir de voyager. La maison près de l'eau sera entourée d'arbres, avec deux chambres et des dépendances séparées. Dans la chambre extérieure, un lit profond et des deux côtés, oreiller et drap blanc. Pour le repos, à la tête du lit, un bouquet d'herbes, huiles et parfums, guirlandes de fleurs, cardamome et cannelle, écorce de citronnier, feuilles de bétel et un crachoir au sol. Un luth accroché à une défense d'éléphant, une table à dessin, une boîte de pinceaux ronde, quelques livres, des guirlandes d'amarante jaune. Pas loin du lit, un tapis rond sur le sol, une table de jeu, une table pour jouer aux dés, et dehors, une cage aux oiseaux, un coin pour buriner le bois et d'autres activités. À l'ombre du verger, une balançoire confortable. Près de la maison, un banc couvert de fleurs. Se lever à l'aube, faire ce qui se fait chaque jour, se laver les dents, enduire légèrement son corps d'huiles et de parfums, devant son miroir mettre de la cire, de la laque rouge, une guirlande de fleurs, prendre du bétel, parfumer son haleine, chaque chose dans l'ordre et la journée peut commencer. Il y a cette liste assez rigolote. Chaque jour un bain, tous les deux jours friction, tous les trois jours se savonner, tous les quatre jours des fortifiants, tous les cinq ou dix jours épilation intégrale, tout cela sans faute, sans oublier d'éponger sa sueur, matin et midi, repas.
Bon, et des listes, il y en a quand même assez souvent.
Il y en a beaucoup, alors, il y a une liste très célèbre. Enfin, okay. Je vous la cite, ça vous donnera une idée de ce que ça va. Il y a beaucoup de listes, parce que ça, c'est dans la logique et dans la pensée hindoue, effectivement, on procède par liste. Dès qu'il y a un problème, quelque chose à résoudre, on fait la liste, soit des problèmes, soit des possibilités. Alors, il y a la liste de toutes les héroïnes possibles. La liste de toutes les femmes possibles. Et vous verrez, c'est intéressant, parce que toutes les listes fonctionnent comme ça, sur la saturation. C'est-à-dire, les listes sont infinies, finalement. Donc, à la fin, tout est possible. Et en même temps, tout est possible et tout est impossible, finalement. Voilà, puisque, vous allez voir, la liste, alors, il dit bien, il faut d'abord se marier avec une femme et être tout à fait avec une femme de sac. Je vous lis le début. Pour réussir dans la société, être bien vu, avoir un fils... Faire l'amour en suivant l'enseignement, écrit, avec une jeune femme de sa classe, de son âge, qui n'est jamais allée avec un autre homme. Au contraire, l'amour avec des femmes de classe supérieure ou appartenant à d'autres est interdit. Avec des femmes de classe inférieure ou non exclues, des prostituées, des femmes qui ont déjà vécu, ce n'est ni recommandé, ni interdit, ou pour le seul plaisir. D'ailleurs, déjà, en trois mots, déjà, y a beaucoup de possibilités. Il n'y a que trois sortes d'héroïnes, les jeunes filles, les femmes qui ont déjà vécu et les prostituées. Liste de toutes les autres héroïnes possibles. Vous allez voir que c'est ce que je veux en faire entendre, c'est que c'est une espèce de poétique. Sa propre femme, la femme d'un autre, une femme en colère, une femme plantureuse, une femme volage, une fée, une femme éléphant, une intellectuelle, une femme mûre, une femme majestueuse, une ingénue, une effrontée, une jeune évaporée, une fille timide et idiote, une jeune idiote, une femme mûre et sévère, une femme mûre et déterminée, une femme mûre et excitée, une femme majestueuse et experte, une femme étrange, une femme agressive, une femme malheureuse, une femme énergique, une femme très énergique, une dominatrice, une femme triste, une batailleuse, une femme jalouse, une femme seule, une amie proche, une amie d'amis, une femme montrée du doigt, une femme aux multiples amants, une femme gaie, une femme en deuil, une femme réservée, une femme méprisante, une nymphomane, une vaniteuse, fière de son apparence, fière d'aimer, fière de ses performances sexuelles, une femme chef, une femme ordinaire, une femme charmante, une femme très charmante, une femme sans charme, une femme d'action, une belle parleuse et une toute petite femme. Cette liste, bon, c'est une grande beauté, je trouve. C'est un peu une poésie... Voilà. Et donc vous avez des listes comme ça à l'infini.
Mais en fait, c'est ça qui est assez étrange, c'est justement d'avoir une pensée taxinomique pour quelque chose qui, par définition, y échappe. Le désir, l'amour, la passion, ça relève aussi toujours d'une mythologie assez profonde qui est d'organiser le chaos. Et c'est
exactement, la... La hantise, effectivement, et on la trouve dans ce texte, mais la hantise de la pensée hindoue, effectivement, c'est le chaos. Et c'est par la parole qu'on va organiser le monde, ce qui est une idée qui n'est pas que hindoue, d'ailleurs, qu'on retrouve dans d'autres civilisations anciennes, que ce soit en Mésopotamie ou chez les Hébreux, d'ailleurs, c'est la même. La parole, c'est par les mots et par la parole qu'on organise le monde. Et là, c'est même l'être même de la langue sanskrit, c'est cela. C'est le sanskrit a été créé par les dieux pour que l'homme puisse organiser le monde en parlant. Là, on essaye d'organiser quoi ? On essaye d'organiser le plaisir, parce que il y a ça. Et c'est pour ça que ce texte aussi a une portée morale qui est assez intéressante. C'est-à-dire que ce texte est toujours au bord du désordre amoureux, du désordre de la passion. Il dit faut faire attention, il faut tenir dans l'enseignement écrit, parce que au-delà de l'enseignement écrit, c'est la folie, c'est la mort, c'est l'usure des corps, c'est la perte, etc. C'est ce que j'ai mis en sous-titre exactement comme un cheval fou, c'est un petit poème dans le texte où il dit voilà, il faut faire attention parce que le désir emporte les êtres exactement comme un cheval fou et il n'y a plus de barrières, plus rien qui les retienne et ils s'enfoncent dans la nuit. Et c'est cette hantise effectivement du désordre, du chaos et de la nuit dans laquelle un désir fou peut nous entraîner qui fait qu'on doit avoir effectivement on doit essayer d'ordonner par la parole
et de domestiquer,
les voies du plaisir.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir une espèce de contradiction à l'époque où le bouddhisme s'implantait de plus en plus en Inde, qui justement avait peut-être qui prenait une voie un petit peu plus austère sur le désir comme cause de souffrance. Est-ce que ces deux systèmes ou ces deux façons de penser sont restées indépendante et contradictoire, ou est-ce qu'il y a eu justement des influences mutuelles
Alors, il y a eu des influences, d'ailleurs même déjà dans ce texte, on voit apparaître les moines et les nonnes renonçantes, ce qu'on appelait les bouddhistes, qui apparaissent. Donc d'ailleurs, le texte est assez ambigu, il dit surtout ne les reçois pas chez toi, mais en même temps, il s'en sert parfois comme messager, comme conseiller. Et de toute façon plus générale, effectivement, on est toujours dans ce... Comme je vous dis, il n'y a pas de dialectique, donc on peut à la fois, on est dans une sorte de balancement entre à la fois essayer de vivre au maximum tout le plaisir possible et toute la réussite possible, sociale, sensuelle et même rituelle, puisque c'est... et en même temps vivre des temps de renoncement drastique et absolu. D'ailleurs, encore une autre énigme de ce texte. À la fin du texte, Vatsyayana explique qu'il a écrit ce texte dans une chasteté absolue. Voilà. Alors, ce qu'on peut entendre aussi comme une sorte d'ironie. Et que probablement, effectivement, à partir du 4e, 5e siècle, le bouddhisme prenant de plus en plus d'importance, ce genre de textes et de savoirs ont été mis un peu sous le boisseau. Mais on n'en sait pas grand-chose. De toute façon, ce qu'on sait, c'est que ce texte a eu quand même une grande postérité dans l'Inde, au moins jusqu'au Moyen-Âge, au moins jusqu'à la période médiévale, puisqu'on a encore on a beaucoup de commentaires de ce texte entre le 13e, 14e siècle. Il y a encore de grands commentaires de ce texte. Des commentaires d'ailleurs qui sont assez ambigus, parce que la plupart du temps, c'est pour essayer de revenir un peu... peu plus de modération.
Justement, qu'est-ce qui a fait que ce texte a ensuite eu cette réputation sulfureuse? Lorsqu'il a été traduit donc en 1863, c'est la première traduction anglaise, en fait, c'est ça qui a émergé dans une période victorienne extrêmement puritaine. Parce que c'est vrai que maintenant, le Kama Sutra, je pense qu'on est loin d'imaginer que voilà, c'est un texte métaphysique, il y a une vision qu'on fantasme beaucoup sur ce texte.
Ce texte était perdu, en tout cas à partir du XVIIIe siècle, même en Inde, ce texte ne circulait plus. Et effectivement, donc, c'est un capitaine de l'armée des Indes, anglais, donc un Sir Richard Francis Burton, qui était passionné de textes de l'Antiquité, de l'Inde ancienne, qui s'était initié au sanskrit, qui était un peu érotomane, un peu beaucoup, qui était un grand traducteur. C'est le premier traducteur en anglais des Mille et une Nuits aussi, puisqu'il a été diplomate, il a été maître soufi, il a eu une vie extrêmement romanesque. Et un des premiers hauts faits de sa vie, c'est d'avoir redécouvert le Kama Sutra. Il savait qu'il y avait des textes érotiques, en Inde, et il s'est mis en tête de les trouver, et il s'est adjoint les services d'un pandit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un érudit hindou à Bombay, qui l'a aidé, et ils ont découvert 2-3 copies de ce texte. Et ils ont fait une synthèse de ces 3 copies, et ils ont fait la première traduction en anglais de ce texte, donc la première traduction en langue occidentale de ce texte, et même, je pense, la première traduction tout court. Ce texte n'avait jamais dû être traduit. Et alors, la traduction, ça a été la traduction qui a fait, effectivement, qui a lancé cette découverte. Alors, le texte a été immédiatement condamné par, évidemment, les sociétés... les sociétés de morale de l'Angleterre victorienne. Les premières éditions ont fait scandale. Il y a eu très vite une traduction en allemand aussi, mais de l'anglais. Mais cette traduction, quand on la lit aujourd'hui, quand on regarde un peu le texte tel qu'il était, c'est une traduction évidemment qui a immédiatement insisté, qui s'est focalisé sur les questions directement sexuelles, et aussi qui a magnifié une sorte d'exotisme une espèce d'exotisme à la 19e siècle. Enfin voilà, donc, c'est une traduction qui n'est pas du tout fidèle, hein, franchement, et qui est dans une espèce de langue extrêmement, un exotisme presque un peu ridicule. Et surtout, c'est le gros problème de la traduction de ce texte, c'est que surtout, dès cette première traduction, on fait appel aux commentaires qu'on en a redécouverts aussi pour nourrir le texte de commentaires. Voilà. Ce qui fait que c'est assez difficile, finalement, d'avoir... Là, vous n'avez que le texte brut, il n'y a pas de commentaires, on les enlève. Donc, après, ce texte est arrivé dans cette société européenne du 20e siècle. Ça a été un texte culte tout de suite, qui a circulé. Et qui a été d'une certaine façon redécouvert dans les années 60, puisqu'à partir des années 60, il y a eu de nouvelles traductions. En français, il y en a eu très peu, directement du sanskrit. La première traduction du sanskrit en français de ce texte date des années 60. Après, même la dernière traduction de ce texte qui est parue au Seuil, c'est une traduction de l'anglais, une excellente traduction par deux auteurs américains qui ont fait une excellente traduction de ce texte.
Qui est traduit en français par Alain Porte.
Voilà, c'est ça, par Alain Porte.
Mais qui contient, une fois de plus, les glosses médiévales.
Voilà.
Effectivement, en comparant, parce que j'ai comparé votre texte avec cet autre texte-là, dans votre texte, on retrouve un style très direct, sobre, alors qu'effectivement, dans les traductions plus traditionnelles, la glose rend le discours un peu plus pompeux, moins direct. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, aussi joué beaucoup, il me semble, sur la théâtralité, ne serait-ce qu'en traduisant le héros, en parlant donc de l'homme, et par la traduction aussi du fou, du parasite... Et du complice, qui dans d'autres traductions ne sont pas traduits comme ça. C'est vrai que vous l'expliquez dans l'introduction, le Kama Sutra fait appel à des personnages archétypaux d'un certain théâtre indien, et il s'amuse à reprendre ces codes-là.
Ouais. Voilà. Alors, oui, ça c'est...
Et vous vous êtes intéressé beaucoup à faire ressortir ce côté-là, donc.
Ouais, deux choses, c'est-à-dire effectivement sur la langue, mais ça, moi, c'est un peu mon... Un peu mon dada là sur les. C'est-à-dire, le sanskrit appartient à ces langues qui, effectivement, d'abord privilégient. C'est des langues qui sont faites pour l'oralité. Et le sutra, en sanskrit, le sutra, ça veut dire que c'est un fil. C'est-à-dire, les sutras, c'est une sorte de verset, comme ça, sans ponctuation, qui est juste comme sur un fil, et qui était fait pour être appris par cœur, et récité par cœur, et mémorisé. Donc, on a à la fois une langue et une poétique de la mémorisation rapide. Voilà. Et le sutra, c'est l'art du bref.
D'où l'hélice.
C'est donc. L'idée, quand vous traduisez en français, c'est si vous commencez à faire une traduction en poulet, comme ça, avec des périodes à la Chateaubriand pour ça, vous passez complètement à côté du texte. Le texte, c'est pas ça du tout. C'est au contraire. Donc, alors moi, j'ai pris des procédés, on va pas, ça c'est un peu trop technique. Par exemple, je privilégie beaucoup l'infinitif en français pour traduire, effectivement, pour donner à la fois une rapidité et une simplicité au texte. Et j'ai essayé, moi, de restituer, effectivement, de façon la plus. Autant que faire se peut, parce que c'est assez compliqué parfois, bien sûr, le corps des sutras et essayer de le faire dans une langue la plus rapide et la plus simple possible, parce que c'est ça. Bon, alors après, c'est parfois.
Sans ponctuation, avec très peu de.
Oui, sans ponctuation, parce que je trouve. Et puis pour faire ressortir, effectivement, quelque chose qui est de l'ordre plutôt du poème. Voilà, c'est parce que c'est. Pour nous, aujourd'hui, on ne va pas s'amuser à restituer ça comme un texte de savoir pour nous. Faut pas exagérer. Mais, par contre, en le restituant aujourd'hui dans cette langue, dans le français contemporain, on peut entendre tout d'un coup un véritable poème. Enfin, un poème ancien qui est absolument fabuleux, qui est à la fois drôle, étrange, assez bouleversant. Voilà. Et alors, sur le théâtre, effectivement, mais là, ça, c'est quelque chose d'avéré, c'est-à-dire que d'abord, à partir du IVe siècle, dans l'Inde ancienne, en sanskrit, il y a une grande profusion de pièces de théâtre qui sont des comédies amoureuses, hein, qui mettent en scène toujours les mêmes personnages, des princesses légendaires qui ont toujours des problèmes, qui ont toujours un amant, un roi malheureux, etc. Bon, et tout ça, et effectivement, la grande question, c'est la question du désir, du plaisir, etc. Et il y a ces trois personnages, effectivement, traditionnels, qui sont aussi les trois figures universelles du théâtre, hein. Le fou, le bouffon, hein, celui que j'appelle le complice, c'est-à-dire en grec ce serait le thérapone, c'est-à-dire celui qui est toujours à côté du héros pour l'aider et puis pour faire les mauvais coups, c'est un peu les Porello aussi, hein, il râle tout le temps mais il est toujours là pour et puis un autre, ça m'échappe juste.
Le parasite.
Voilà, le parasite. Alors ça, c'est un peu plus particulier. C'est un personnage véritablement très important dans l'Inde ancienne. C'est ces brahmanes qui sont devenus pauvres et qui vivent au crochet des autres. Et ils vivent au crochet des autres en dispensant leur savoir, leur voilà. Et donc ces trois personnages sont dans l'univers, comme ça, de l'Inde ancienne, dans toutes les comédies. Et ils apparaissent dans le Kama Sutra, ils sont très importants, ils sont toujours là. Soit vous avez besoin d'envoyer un message, hop, vous les utilisez, soit pour faire la fête, soit pour organiser des réceptions, il faut qu'ils soient là, voilà. Donc, et ensuite, toutes les situations amoureuses dont on parle dans ce texte, ce sont des situations de comédie amoureuse. Hein. Et il y a il y a du Molière dans le Kama Sutra, parce que vous trouvez le mari cocu, vous trouvez l'avare qui ne veut pas payer, mais qui est quand même amoureux de la jeune fille, vous trouvez le donjon, vous trouvez les jeunes héros qui se... Enfin, vous avez toute la situation des personnages de comédie amoureuse et de comédie théâtrale. Voilà. Et probablement d'ailleurs que ces textes étaient lus comme sur des scènes théâtrales. Et alors ça donne, du coup, c'est intéressant, ça donne une autre perception de ce texte. Enfin, voilà, parce que quand vous lisez, eh ben, vous dites, il faut lire ça effectivement comme au théâtre, un peu en quelque sorte. Hein. On vous évoque des situations théâtrales voilà, qui sont... Et il y a beaucoup de références d'ailleurs à des personnages de comédies amoureuses, des reines et des rois malheureux en amour, voilà, qui sont évoqués dans le Kama Sutra.
Est-ce que vous voulez peut-être dire deux mots de l'autre titre qui vient de paraître aux éditions Pewell, Quelle terreur en nous ne veut pas finir, qui est donc dans un autre genre, extrêmement différent.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pourriez en dire ?
Je vais vous lire un passage, puis après je vais en parler, parce que vous... Bah, donc c'est un petit essai, enfin bon, je sais pas comment l'appeler. Une réaction à des choses qui s'entendent de plus en plus aujourd'hui. On s'étonne bruyamment aujourd'hui de notre naïveté, on se plaint doctement de notre cécité, de notre bon cœur dangereux, de nos belles pensées, de notre bonne pensance, et forcément hypocrite, de nos bons sentiments, oui, de nos bonnes pensées, pas nécessairement exigeantes, mais si simples d'esprit, si simplement sommaires. On soupire après nos belles âmes, très rapides, très faciles, très légères, dit-on. On se moque de notre angélique bêtise, de notre angélisme tout court qui nous rendrait aveugles. On attaque très justement, semble-t-il, notre absence de repères, notre désolant manque de poids et de rigueur, notre poids plume d'ange. notre manque de frontières, notre combien cruel défaut de limites. On s'en prend à notre abyssale carence nationale, à notre perte historique de mémoire, à notre amnésie familiale. Parce que nous défendons le droit à l'hospitalité, par exemple, le droit de faire un peu de place à d'autres que nous, même si nous pensons, même si nous craignons qu'il n'y en ait plus beaucoup, parce que nous exigeons d'accueillir toute personne comme une personne libre, comme une personne de plus, mais sans comprendre, bien sûr, dit-on, sans savoir, sans voir les conséquences, parce que nous ne verrions pas derrière chaque nouvel arrivant, chaque nouveau venu de trop, la goutte qui ferait tout déborder, tout basculer. C'est un vaste puzzle, disent les gens intelligents et informés, les gens de mémoire et de poids. On ne peut rien bouger comme cela, c'est fragile, les pièces s'assemblent depuis des millénaires. D'autres formes, d'autres dessins, et ce serait le casse-tête, pensez-y, disent les gens de bonne réaction. Comme si tout s'était conservé dans le passé, comme si tout n'avait pas déjà bougé dans le passé, comme si rien n'était arrivé d'autre dans l'histoire du monde, comme si jamais rien n'arrivait et rien ne disparaissait pour que le monde soit. Ça continue comme ça sur 100 pages, donc c'est pas très... Non, mais c'est... Je peux en parler, voilà, c'est un... ça fait plusieurs années que j'avais envie de... d'écrire quelque chose, j'ai pensé à une tribune, etc., mais les tribunes, c'est pénible. Puis, pour tout ce que j'entends, voilà, je n'ai pas à faire un dessin, on a de plus en plus de... Pardon, hein, mais je suis...
Non, mais allez-y.
C'est parce qu'on m'a fait courir dans les rues de Bordeaux. Et donc, voilà, c'est le sens du titre. Quelle terreur en nous ne veut pas finir? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait aussi peur, effectivement, de ce qui est le travail fondamental de toute culture et de toute civilisation, c'est-à-dire l'ouverture, l'accueil et la rencontre. Moi, ma passion pour la traduction, vous l'avez peut-être compris, c'est pas pour le plaisir de traduire, c'est parce que, effectivement, c'est le vecteur même de ce qui fait l'innovation de toute culture, de toute civilisation. Voilà. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le monde latin n'aurait pas existé sans la traduction et sans l'accueil. Donc voilà, j'interroge, voilà, quelle angoisse se cache derrière ces discours qui sont de plus en plus parfois délirants, hein, de plus en plus fantasmatiques, puisqu'effectivement... On veut nous faire entendre que tout le monde arrive, voilà, qu'on est envahi, que tout est là. Et c'est, voilà, donc la seule pointe que j'essaye de dire, c'est que d'où nous venons, voilà. Quelles sont les valeurs qui nous ont faites, voilà. Et la seule valeur, la valeur fondamentale qui nous a faites et qui vient de très très loin, c'est au contraire toujours le respect indéfectible de l'autre personne. Si vous perdez ça, eh bien, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est ça qui est compliqué, c'est très difficile. Moi, je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile. Si vous perdez ça, nous sombrerons dans la barbarie. Et ceux qui croient combattre la barbarie sont en train de nous pousser dans la barbarie. Voilà, c'est le thèse de ce petit texte.
Merci beaucoup, Frédéric Boyer.